Bienvenue dans France Bleu Soir, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle semaine de découvertes et d'invités sympas. Parce que oui, celui de ce soir l'est assurément, c'est Yarol Poupos pour son premier album solo. Album vivifiant qu'on a le plaisir de vous présenter jusqu'à 20h. Mais pour l'instant, le journal de la rédaction non moins vivifiant de cette rédaction, Frédéric Dorel.
Bonsoir Arnold, bonsoir à tous.
L'hypothèse de l'accident de plus en plus plausible après la disparition d'Emiliano Sala.
Un corps a été repéré dans la carcasse de l'avion qui a été retrouvé dans la mer, la Manche. Nous ferons le tour des questions qui restent sans réponse. Le procès à La Roche-sur-Yon de 6 gilets jaunes, destructeurs de radars, 3 hommes et 3 femmes qui ont mis le feu à 11 limitateurs de vitesse en une nuit. Ils ont même appelé ça opération Johnny, la peine la plus lourde, 4 mois de prison ferme.
Emmanuel Macron face à 300 élus de banlieue parisienne depuis 1h30.
Et alors, on peut vous dire que l'ambiance est glaciale. Julie Smul nous appellera. La journée contre le cancer, outre l'injustice de la maladie, il y a celle de ce que coûtent les soins. Nous serons en direct avec Emmanuel Jam de la Ligue contre le cancer. Les propositions de l'UFC Que choisir pour le pouvoir d'achat, la France qui reconnaît Juan Guaido en tant que président par intérim du Venezuela, et puis votre invité Arnold, Yarol Poupos.
Exactement, il est là. Bonsoir Yarol.
Bonsoir.
Bienvenue pour votre premier album solo. Ça y est, il est enfin là.
Et voilà.
Et voilà, on va le découvrir ensemble jusqu'à 20h. Album solo qui dépote, hein. Je préfère vous avertir, montez le volume.
C'est du rock.
C'en est, effectivement. On vous retrouve juste après le journal.
France Bleu Soir. France Bleu Soir. Arnold Derek, Frédéric Dorel.
À 19h01, Frédéric Dorel, on démarre avec l'enquête sur la disparition d'Emiliano Sala. Ça avance, un corps a été retrouvé dans l'épave de l'avion.
Un corps détecté par le sous-marin télécommandé qui mène les recherches 15 jours après la disparition du monomoteur. Alors que s'est-il passé exactement? Tant qu'on n'aura pas remonté l'épave, ce sera difficile à dire. Mais les spécialistes émettent quand même des hypothèses, comme Frédéric Benyada, qui est notre expert aéronautique.
On va regarder si l'avion déjà est intègre. Si l'avion est intègre, ça voudra peut-être dire est-ce que le pilote a tenté d'amerrir suite à une panne. Alors suite à une panne, on va aller regarder les moteurs. Donc on va tenter de remonter les moteurs à la surface. On va regarder différents systèmes qui auraient pu tomber en panne. On va peut-être pas tout remonter l'ensemble de l'avion, mais différentes pièces clés qui pourraient permettre d'expliquer l'accident. Les conditions météo étaient très très mauvaises. La piste la plus avancée actuellement, c'est l'hypothèse du givrage. C'est-à-dire, on a un avion qui va se retrouver dans des nuages chargés d'eau, avec du très mauvais temps, avec des températures extrêmes. Il y a de la glace qui peut se former sur les ailes. En tous les cas, si le pilote a demandé à descendre, c'est qu'il était certainement en train de givrer. Le problème, c'est le système de l'entonnoir. Vous êtes dans de mauvaises conditions météo, donc vous sortez de votre plan de vol, vous descendez très très bas. On parle de 700 pieds, il est à peine 300 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Donc on est de nuit, on est dans du mauvais temps, et l'avion descend. Il est en pilotage sans doute manuel, et là il impacte la surface de la Manche.
La terrible mais très plausible hypothèse de Frédéric Benyada, spécialiste aéronautique de Radio France et donc de France Bleu.
Les gilets jaunes ont-ils la fibre rouge? On le saura demain. La CGT appelle à la grève générale.
Plusieurs préavis ont été déposés dans la fonction publique, mais la journée s'annonce normale à la SNCF comme à la RATP. Seule perturbation à signaler, le trafic TER en Occitanie. Il manquera un train sur 10. La CGT qui refuse de se rendre mercredi à Matignon, conformément à l'invitation du Premier ministre qui veut réunir les syndicats et le patronat.
Un autre mouvement qui se poursuit, hein, Frédéric Dorel, les VTC, ils seront mobilisés à nouveau à Paris demain matin.
Pour réclamer notamment un tarif minimum de course, ils se donnent rendez-vous à 6h30, hein, c'est précis, demain matin, Porte Dauphine, pour ensuite converger vers Bercy.
Ils ont détruit 11 radars en une nuit, 6 gilets jaunes ont été condamnés aujourd'hui à La Roche-sur-Yon.
Condamnés à des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 4 mois ferme pour avoir mis le feu à ces radars. Marc Bertrand, ils avaient même osé baptiser cette nuit d'action Opération Johnny.
Oui, un plan imaginé pendant une réunion de convergence de tous les gilets jaunes de Vendée. Objectif, allumer le feu sur tous les radars du département. Alors des équipes se montent, on prend un bidon d'huile, des pneus, l'allume-feu du barbecue du jardin. Les prévenus laissent même leur portable à un complice pour qu'il borne à l'autre bout du département pendant les faits. Comment vous avez eu l'idée? Demande le président. On a vu ça à la télé, répond l'un des gilets jaunes, tête basse, tout penaud. Tous sont des enfants, chômage ou petit salaire, ils sont bouchers, serveurs, forgerons, entre 30 et 50 ans. il y a même un pompier volontaire parmi les incendiaires. Tous regrettent, ils disent avoir été emportés par l'effet de groupe. Ils n'ont pas réalisé, disent-ils, la gravité des faits. Et oui, on est dans la vraie vie, répond le juge. La vraie vie, c'est des vraies conséquences, des peines de prison qui vont de 6 mois avec sursis à 4 mois ferme et les dégâts à rembourser. Une audience aura lieu au mois de mai, mais pour seulement 2 radars, il y en a pour pas moins de 100 000 euros de dégâts.
Marc Bertrand au tribunal de La Roche-sur-Yon, France Bleu, Loire-Océan.
Emmanuel Macron n'oublie pas la banlieue dans son tour de France des maires.
Le chef de l'État est ce soir à Évry-Courcouronnes, à 50 minutes de Paris, dans le cadre du grand débat national. Et depuis 1h30, il écoute. Julie Smul, quel a été l'accueil?
Alors, l'image à retenir, le son plutôt, enfin même l'absence de son, en fait le moment fort, c'est ce silence glacial, pas un bruit quand le président est rentré dans cette salle, où on est quand même plus de 300 personnes, peu de sourires aussi, des visages fermés, une tension palpable. Les maires des banlieues parisiennes avaient prévenu le président, ils l'attendaient au tournant. Emmanuel Macron, qui lui est resté souriant, il a dit quelques mots avant qu'on passe le micro aux élus. Il a reconnu que en banlieue, des fois, on a le sentiment d'être plus loin de Paris que quand on vit au fin fond de l'Aisne. Petit sourire, les premiers, enfin, dans l'Assemblée, quand le président a prononcé ces mots. Depuis, les maires prennent la parole, ils se passent le micro, ils ne sont pas vraiment tendres avec le chef de l'État. La maire de Gentilly vient, il y a quelques minutes, de le prendre à partie. Je vous cite ses propos. « Monsieur le Président, il était temps que quelqu'un vous le dise depuis votre élection. Vous vous êtes peut-être senti un peu trop au-dessus des Français. »
Et voilà, donc ils ont su faire ressentir la distance à leur tour. Merci Julie Smul, en direct d'Évry, Courcouronnes, France Bleu Paris.
Restez avec nous pour la suite du journal de Frédéric Dorel, 19h06. On part au Venezuela. Dans un instant, la France reconnaît Juan Guaido en tant que président du pays par intérim. Nicolas Ballu nous expliquera si c'est de l'ingérence ou pas. Se soigner quand on est malade du cancer coûte cher. À l'occasion de la journée contre le cancer, nous allons parler de cette autre injustice avec le délégué de la société de la Ligue contre le cancer. Mais d'abord, Frédéric, l'UFC Que Choisir apporte sa contribution au grand débat national.
L'association de consommateurs travaillent avec des experts du secteur bancaire, des assurances ou des mutuelles, autant de spécialistes qui savent où se trouvent nos problèmes de pouvoir d'achat, d'où cette liste de 12 mesures qui, selon elles, amélioreraient les finances des ménages si elles étaient appliquées.
Comme par exemple supprimer les commissions d'intervention en cas de découvert.
Cette retraitée rencontrée par Benjamin Illy à Paris est tout à fait d'accord.
Peut-être pas mon code.
Ah mais c'est de la radio. Hein.
Une banque, un distributeur. Une petite dame, là, vient de retirer quelques billets.
Annette.
Annette, vous avez quel âge?
Oh, 74 ans.
Ça va, il en reste encore un peu, là, de l'argent sur le compte?
Oui, quand même, un tout petit peu. Disons que c'est à partir du 15, 18, voilà, ça commence à être difficile.
Vous touchez combien de retraite par mois?
Environ 2000 euros par mois. J'ai des impôts élevés, donc j'ai quand même des frais, ne serait-ce que les charges. Je suis propriétaire, mais les charges sont très élevées.
Les frais bancaires, les frais d'incident bancaire, ça vous parle?
Bien sûr, ça m'arrive assez souvent.
À quel rythme?
Deux fois par mois, mais je suis souvent à découvert, vous savez. Je crois que j'ai au moins 150 euros, si c'est plus, de frais bancaires annuels.
L'association UFC Que Choisir propose de supprimer les frais d'incident bancaire.
Moi, je suis tout à fait d'accord pour la suppression. Et comme le fait aussi de la, voyez, pour ma pension de reversion de mon mari, parce que malheureusement, je suis veuve depuis longtemps, ils m'ont fait débiter toutes mes cartes de bleu avant. Donc, je me suis trouvée en découvert de 40. Pourquoi pas créditer d'abord le compte? C'est eux qui vous mettent souvent en position de débiteur. Hein, voilà. C'est J plus 1 pour ce qui est du crédit et J plus 0 pour ce qui est des débits.
Eh oui, Annette, retraitée parisienne avec Benjamin Illy.
Et les 11 autres propositions de l'UFC Que Choisir sont à découvrir sur notre site internet francebleu.fr.
19h09, une page santé. Le cancer, en plus d'être une maladie mortelle, coûte très cher sur le plan financier et social à ceux qui en souffrent.
On en parle sur France Bleu à l'occasion de la journée contre le cancer. C'est d'ailleurs un sujet qui nous tient à cœur. 400 000 nouveaux cas sont détectés chaque année en France et on déplore 150 000 décès par an. Emmanuel Jam, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué aux politiques de santé à la Ligue contre le cancer. Alors on pense tous que la maladie est prise en charge à 100% par la Sécu, plutôt les cancers, les maladies, mais ça n'est pas le cas.
Oui, en fait, le 100% est trompeur. Vous savez, 100%, c'est 100% du tarif de la sécurité sociale. Et puis vous avez, bien sûr, tout ce qui n'est pas pris en charge, qui est au-delà de la prise en charge. Et je pense en particulier aux dépassements d'honoraires, qui ne sont absolument pas pris en charge.
Les dépassements, donc, des médecins qui profitent,
les médecins et les anesthésistes,
non pas qui profitent
par
de la situation, mais qui sont payés plus cher. Qui demandent plus cher,
exactement,
en tout cas en honoraires.
Absolument. Si on prend par exemple l'exemple des femmes qui ont une reconstruction mammaire chirurgicale, après donc avoir eu un cancer, vous savez, c'est quand même une épreuve très importante et très souvent, les chirurgiens et les anesthésistes demandent des dépassements d'honoraires. On a évalué cette demande à environ 1 400 euros en moyenne. Vous vous rendez compte, lorsque vous avez un cancer, vous avez cette maladie, en plus, il faut débourser de l'argent pour pouvoir vous reconstruire physiquement et socialement. C'est une épreuve supplémentaire.
Et alors, en plus, il y a les transports. Les centres ne sont pas forcément à notre porte. Et également les soins de confort. Enfin, il y a plein de choses qui entrent en jeu et qui font que la facture s'alourdit mois après mois.
Ce qui est en plus insupportable, c'est le terme confort. Vous voyez, par exemple, les personnes qui ont la radiothérapie pour lesquelles il faut des crèmes apaisant la brûlure de la radiothérapie, c'est considéré comme des soins de confort. Mmh. Ça veut dire que la douleur est encore considérée comme du combattre la douleur est encore considéré comme du confort. C'est inadmissible pour les personnes qui souffrent de cette maladie.
Pour les perruques, elles vont être mieux remboursées à partir d'avril, et ça, c'est un peu grâce à vous.
C'est une très très bonne nouvelle, c'est un combat de 5 ans pour pouvoir revaloriser le remboursement des prothèses capillaires, en particulier pour les femmes, les hommes aussi, mais surtout les femmes qui en ont besoin pour également avoir cette meilleure image sociale pendant et après la maladie. 350 euros comme prix limite de vente pour une prothèse capillaire de très bonne qualité, c'est une grande avancée. Auparavant, c'était 125 euros et ça c'est vraiment une avancée grâce au travail associatif et la Ligue contre le cancer en particulier.
Et alors, vous parlez d'image sociale. Est-ce que c'est toujours aussi difficile d'obtenir un crédit quand on achète une maison, par exemple, et qu'on est malade du cancer ?
C'est difficile, c'est moins difficile qu'auparavant. Il y a eu des avancées, en particulier de ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Pour les personnes qui ont eu une pathologie cancéreuse il y a plus de 10 ans, pour les adultes, et plus de 5 ans pour les enfants, il n'y a plus besoin de déclarer qu'on a eu un cancer. Ça, c'est une véritable avancée. Mais pour certaines pathologies cancéreuses qui sont un peu plus lourdes, c'est toujours le cas. Et puis, on pourrait également aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 10 ans, c'est encore très long. Et pour des pathologies pour lesquelles il n'y a pas de surmortalité avérée, c'est-à-dire que vous n'avez pas plus le risque d'avoir un cancer que monsieur et madame tout le monde, et bien ce n'est pas normal encore d'avoir des surprimes 10 ans après avoir eu un cancer.
Merci Emmanuel Jamme, délégué Société et Politique Santé à la Ligue contre le cancer. Bonne soirée à vous.
Merci beaucoup.
La crise au Venezuela, à présent 12 pays européens, reconnaissent désormais Juan Guaido en tant que chef de l'État par intérim.
Lui qui était encore président de l'Assemblée il y a 15 jours. La France notamment lui reconnaît le droit de mettre en route des élections. De quel droit, Nicolas Ballu, au nom de quoi un État étranger peut-il se mêler de la politique intérieure d'un autre État ?
Eh bien, on peut répondre de plusieurs manières. Faut-il rester muet sur ce pays où les gens vivent dans la misère, où la pénurie alimentaire atteint 80%, où plusieurs millions d'habitants quittent leur pays, provoquant une crise avec les pays voisins? Ça, c'est la question humanitaire. On relèvera également que si l'un est président autoproclamé, la légitimité de l'autre, Nicolas Maduro, est remise en question, non seulement par une partie du peuple, mais aussi par une partie de la communauté internationale. Certains pays n'ont pas reconnu son élection. Enfin, le soutien de la France à son opposant, Juan Guaido, s'est fait par étapes, puisqu'elle a d'abord demandé à Nicolas Maduro d'organiser des élections avant de reconnaître Guaido. Bien évidemment, cela n'épuise pas votre question. Les pays occidentaux ont une longue tradition d'ingérence qui est aujourd'hui contestée. Et le rôle des États-Unis depuis 100 ans en Amérique du Sud a toujours été trouble. Le Venezuela a les plus grandes réserves de pétrole au monde, donc personne ne s'en désintéresse. Pas même la Chine et la Russie, les deux plus grands créanciers du Venezuela. Les intérêts financiers et militaires de Moscou y sont grandissants. Caracas est leur obligé. Leur soutien à Maduro n'est pas plus neutre que la position de la France ou des États-Unis.
Et oui, évidemment, tout le monde défend ses intérêts dans cette affaire comme dans les autres d'ailleurs. Merci Nicolas Ballu.
Musique et cinéma pour clore votre journal, Frédéric Dorel. Oui. Les biopics, vous savez, ces films qui racontent la vie d'une star, c'est à la mode en ce moment. 4, pas moins, sont en préparation.
Oui, pour raconter par exemple la vie d'Elton John, d'Elvis Presley, de Céline Dion et de David Bowie aussi. Mais là, c'est plus compliqué. Le fils du chanteur ne veut pas céder sur les droits des chansons de son père, sauf si c'est un film d'animation. Take a look at the long man, reading Life on Mars, David Bowie en 1971. David Bowie qui donc aura peut-être son biopic, mais peut-être pas.
Voilà, c'est toute la question. Merci beaucoup Frédéric Dorel.
C'est son fils qui détient les clés de cette question.
Oui, Duncan Jones, hein, qui est réalisateur de films. Talentueux.
De films de dessins animés, il est réalisateur, lui, non?
Ah bah alors.
Pas du tout. Non, il fait
ça nous arrangerait, mais non.
Des films de science-fiction et d'heroic fantasy. Voilà, Duncan, c'est la spécialité du fils de David Bowie.
On va checker ça.
Je vous demande pas si ça fait vibrer une corde en vous, Harold Poupeau, cette histoire de biographie, de biopic au cinéma.
Il y en a eu des biens. Hein, je veux dire, il y a des. Par exemple, je me rappelle du film sur Ray Charles, là, Ray, qui était vraiment très bien foutu. Jamie Foxx avait une performance incroyable.
Ouais,
et je suis très curieux de voir le prochain biopic sur Elvis Presley.
Ah. Alors,
qui va jouer le rôle d'Elvis Presley?
En attendant, peut-être c'est un biopic sur Johnny, hein, parce que un jour ou l'autre.
À mon avis, il y en a plus d'un qui a commencé à y cogiter.
Ouais. On est bien d'accord. Il y a Harold Poupeau. S'il vous plaît. Frédéric Dorel, est-ce qu'on peut continuer?
Allez.
Merci, au revoir. Il y a Harold Poupeau avec vous en direct sur France Bleu. C'est après la météo.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.